nous lisions. Non,
non,
ça c'est Yitzhak. Yaakov, lui, il demande la maladie. Il demande d'être malade avant de mourir.
Je suis un peu étonné parce que ici on a vu que David avait fait la même chose.
David.
Le roi David. Il me semble que le roi David, à un moment donné, il demande à être.
Non, mais là-bas, il demandait à être éprouvé.
Pas du
tout. Non, ici, il demande pas du tout des épreuves en tant que est-ce que je vais réussir l'épreuve ou pas. Il dit j'ai bien envie de passer un mauvais quart d'heure pour, au fur et à mesure de ma vie, payer pour les fautes que j'ai faites. De telle sorte que ces fautes ne s'accumulent pas et que je n'ai pas à payer pour toutes les fautes à la fin de ma vie.
Mais pourquoi. Là, vous parlez pour Yitzhak ou même.
Non, c'est Yaakov.
Ah, mais pour Yitzhak aussi, vous avez dit. Non, c'est. Les
oui, lui, c'est lui il demande les sourim, et ça c'est pour les sourim. Ça c'est pour Yitzhak.
Ah, voilà.
Yaakov, lui, demande à être malade pour avoir le temps de régler ses affaires, de distribuer ses biens, d'apaiser ses enfants, etc.
Donc, et pourquoi les sourim, ça lui permet. C'est peut-être que ce qu'on va voir après maintenant. Pourquoi les sourim, ça lui permet de mettre les compteurs à zéro, comme vous dites.
C'est quand on a fait une faute, il faut payer. Oui.
Oui.
Alors, une des façons de payer, c'est d'avoir des sourim, c'est-à-dire des ennuis. Et quand j'ai un ennui, l'ennui vient pour une faute commise, et donc il vient réparer, si on peut parler comme ça, la faute commise.
Mais si vous voulez, ça fait quand même penser un peu au niveau de la même approche que celle de David. Bon, ça c'est les épreuves, David. Il sera que c'est.
Non, parce que David, lui, a dit. David, il a dit à Hachem, tu peux m'éprouver, moi aussi, je réussirai l'épreuve. Et ça, c'était de l'orgueil. Et donc, ça ne lui a pas été pardonné, enfin, pas pardonné. Hachem lui a montré qu'il n'est pas mieux. Tandis qu'ici, ce que demande, par exemple, Yaakov, c'est un peu étonnant parce que c'est comme s'il disait, j'ai besoin de temps pour mettre mes affaires en ordre. C'est technique.
Oui, c'est bizarre par rapport à la maladie.
Ah, si je suis malade pendant un certain temps, je sais que je vais mourir au bout de cette maladie, parce qu'il parle d'une maladie qui précède la mort.
Ah, comme pour le prévenir.
Oui, à la fois le prévenir et lui permettre de régler ses affaires avant de disparaître.
Parce qu'il sait qu'il va mourir. Donc
parce qu'il sait que lui, il demande une maladie suivie de mort. C'est-à-dire, ou plus exactement, ce qu'il demande, c'est avant de mourir, envoie-moi un faire-part, que j'ai le temps de régler mes affaires. Ce n'est pas des souffrances, c'est une maladie, c'est un temps, c'est un signe, c'est un signal avant-coureur. Et puis après, on a celui qui a demandé, il ajoute sur le précédent, je demande effectivement.
Bénomi, il n'entend pas.
Bénomi, il n'entend pas.
Il n'a pas été.
Bénomi,
il
n'entend pas.
Il n'est pas connecté. Il faut le lancer.
Il vient.
Donc il y a ensuite Chizkiyahou, le roi Chizkiyahou, qui a.
Tout marche.
Qui a demandé qu'on puisse se remettre de la maladie, contrairement à ce qui avait été demandé avant, avoir successivement de différentes maladies. Alors à quoi ça sert d'avoir des différentes maladies? Ben, vous faire tchouva, justement. C'est des rappels à l'ordre pour qu'on fasse tchouva. L'intéressant, c'est que les autres, ils n'ont pas l'air de penser qu'on puisse faire tchouva. Ils disent, il faut payer. Mais tu peux faire tchouva aussi, non? comme si avant Hizkiyahou on n'envisage pas la tchouba. Alors il y a cette fameuse histoire que vous connaissez certainement, que le roi Hizkiyahou, c'était le cousin du prophète Yeshayahou, prophète Isaïe. Et un jour, Yeshayahou est venu chez son cousin, chez Hizkiyahou. Il lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Vous vous souvenez, je vous rappelle juste pour tout le monde. Et alors il lui dit, pourquoi je vais mourir? Il dit, parce que tu t'es pas occupé d'avoir des enfants. Alors il a dit, mais bien sûr, je m'en suis occupé, seulement j'ai vu par prophétie que je vais avoir des enfants idolâtres, si j'en ai. Et je ne veux pas mettre au monde des idolâtres. Donc je me suis... C'est pas du tout que je voulais pas m'en occuper, je voulais m'en occuper, mais je ne veux pas produire des idolâtres. Alors, Yeshayahou lui a répondu, ça veut dire, c'est très bon de savoir ce que seront tes enfants, c'est pas ton problème. Toi, tu as une mitzvah d'avoir des enfants, point barre. S'ils font le bon chemin ou pas, c'est pas ton problème. Même si toi, tu sais qu'ils n'iront pas sur le bon chemin, c'est pas une raison pour pas avoir d'enfants. Alors, il lui a expliqué ça, et puis il dit, voilà, tu vas mourir maintenant. Tu t'en es pas occupé, tu vas mourir. Alors, Hizkiyahou lui a dit, dans la famille, c'est la même famille que Yeshayahou, il lui dit, nous, dans la famille, on sait que même quand on a le couteau sur la gorge, il ne faut pas désespérer, il faut avoir confiance en Hachem. Alors, il lui a dit, Hizkiyahou, il a dit, écoute, donne-moi ta fille en mariage. Peut-être que entre ton mérite et le mien, on arrivera à limiter les dégâts. Les enfants qu'on aura, ils ne seront pas aussi pourris, aussi tordus que ce que j'ai vu. C'est ce qu'ils ont fait. Et un des enfants issu de ce mariage, c'est le roi Menaché, qui est un roi idolâtre, comme on en a peu vu. Et ça, c'était avec la fille d'Yeshayahou. Vous imaginez ce que ça aurait été si ce n'était pas la fille de Yeshayahou. Alors c'est lui qui a demandé. Alors justement, lui, il est tombé malade. Il était tombé malade et quand... à ce moment-là, Yeshayahou est venu, il lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Alors il a dit non. Et c'est marqué que, il s'est tourné vers le mur, il a prié. Et il a eu 15 ans de rab. C'est lui qui était presque Mashiach. C'est lui qui n'a pas chanté, c'est pour ça qu'il n'était pas Mashiach. C'est Hizkiyahou.
Mais si cette histoire de nous montrer un exemple pour nous, souvent le cas, et puis comment on peut interpréter, par exemple, lorsque on est malade soi-même, et comment on peut interpréter que c'est peut-être là un signe pour faire toujours.
Oui.
Parce que la maladie est difficile, tu peux tomber malade.
Oui, alors, mais c'est vrai de la maladie, c'est vrai de toute épreuve. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un voit qu'il vient des épreuves sur lui, c'est marqué, il fâche pêche, je me mets un save, il fâche pêche, je me mets un save, il faut qu'il aille, comme on dit, apprécier, comme on apprécie un tissu, etc., apprécier un peu, s'apprécier, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de mes actions. Il faut trouver le fil conducteur entre la tuile qu'il est en train de prendre, la maladie ou les ennuis, d'accord, et ce qu'il pense être la cause de ces ennuis. On peut dire, voilà, j'ai des ennuis, pourquoi? Parce que j'ai...
Et ça tient à la nature aussi de la maladie, quand vous dites la maladie?
Oui, en principe, il faudrait regarder...
La nature.
Il faudrait que, pour trouver un fil conducteur, je pense qu'on ne va pas interpréter le rhume comme comme je sais pas, un bras cassé ou je sais pas, une colique néphrétique ou un truc comme ça. Donc il faut, parce que dans le fil conducteur, il doit y avoir une commune mesure. Bon, ça veut dire, on ne peut pas dire, vous vous souvenez, on a discuté de savoir quelles étaient les plus petites souffrances, les plus petits ennuis, on avait dit, c'est de mettre la main dans la poche pour sortir un euro et vous sortez 2 euros, une pièce. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il faut, il faut remettre la main dans la poche et ressortir. Donc, jusque-là, les frères ont dit, ça va jusque-là. Ils ont dit ça pour dire qu'il faut, en sommant tous ces petits ennuis, ça nous évite éventuellement un plus gros ennui. Vous vous souvenez, c'est l'histoire du roi avec le tas de le tas de cailloux, etc. Alors,
c'est que bon, ça pourrait s'apparenter aux maladies chroniques.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est chronique et c'est vaut mieux avoir peut-être une maladie chronique, une grosse maladie qui...
Bon, non, justement, le problème c'est il faut trouver un fil conducteur au niveau de la commune mesure. C'est toujours mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Vous ne pouvez pas dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'envoie, j'ai des ennuis là, j'ai mis la main pour sortir 1 euro, il sortit 2 euros, c'est embêtant. Ça m'énerve parce que j'avais pas beaucoup de temps pour payer mon parcmètre ou je sais pas quoi et ça vient pas. Et vous dites, ah bon, c'est sûr, j'ai tué mon voisin, donc ça doit être ça. D'accord, il n'y a pas de commune mesure, ça peut pas marcher.
Il y a un autre problème, une autre question qui se pose, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en vieillissant, les maladies multiplie. Alors, est-ce que... comment interpréter cela?
Alors, on va y aller. On va aller progressivement. Alors, du coup, la Gemara qui pose cette question, elle répond, il faut regarder, examine toutes tes actions, et regarde parmi l'éventail de tes actions, celles qui ne sont pas très bonnes, et puis essaye de voir... comment font les enfants à l'école maternelle. Il faut relier, faut tirer un coup de crayon entre ce côté-là et quelque chose dans la liste, là. Trouver dans la liste un truc qui est une commune mesure avec l'ennui qu'on a, qu'effectivement, peut-être... on pourrait dire que si quelqu'un... a un ennui sur le bras, c'est qu'éventuellement il a peut-être fait une avéra qui a à voir avec le bras. Ce serait plus simple, si vous voulez.
Quand vous dites avéra, c'est
une faute.
Oui. Je sais, mais est-ce que c'est ne pas faire les mitzvot ou
Oui, alors ça peut être effectivement être négligent sur certaines mitzvot. On te fait un rappel, une piqûre de rappel. Attention, regarde ici, ton bras, il est nourri par les mitzvot qu'on fait avec le bras, et tu fais pas ces mitzvot, ton bras il refuse un peu son fonctionnement. C'est pas toujours très clair, n'est-ce pas? Par exemple, il y a des fois où c'est dans la paracha de cette semaine, que nous allons lire cette semaine, Yaakov Avinu, il a une suite de tuiles pas possible, n'est-ce pas? Il a l'histoire de Dina, qui est vieux, sa fille qui est violée, il perd Rachel. Bon. Et le Midrash dit, Hachem s'énerve parce que je lui envoie des messages, il ne comprend rien. Ce Yaakov ne comprend rien du tout. Et quelle est la faute? Vous connaissez l'histoire, non? La faute qu'il a commise, c'est que quand il est parti en Galoute, pour échapper à Esav, son frère, il a fait un vœu. Il a dit, si Hachem est avec moi, s'il me garde, si je me ramène dans la maison de mon père avec toute mon intégralité, mon intégrité, alors cette matseva, c'est-à-dire cette pierre, cette stèle que j'ai dressé là, je vais en faire un Beth Amikdash, je vais en faire un lieu de culte pour Hachem, je vais construire le Beth Amikdash. Et quand il est revenu, il ne s'est pas empressé de le faire. Il a pris du retard là-dessus. Hachem lui dit, il envoie cette huile là, parce qu'il est en retard. Parce qu'il s'est engagé à quelque chose, et il ne tient pas sa parole. Pour l'instant, il a seulement du retard. Mais la Torah, elle, il y a toutes sortes de halachot quand on fait un vœu. Vous vous souvenez, on a peut-être déjà parlé de ça, c'est que si on fait un vœu, quelqu'un fait comme vœu, par exemple, il va apporter un korban. Bon, il sent qu'il a besoin d'apporter un korban, il va apporter un korban, il fait le vœu d'apporter un korban. A priori, il devrait l'apporter à la première occasion, c'est-à-dire la prochaine fête de pèlerinage, où de toute manière il doit monter à Yerushalayim, il devrait apporter son korban. S'il ne le fait pas, alors il a été, ce qu'on me va-t-elle la mitzvah assez? Il y a une mitzvah positive de le faire à temps, de le faire hier plus tôt, mais il ne transgresse pas encore l'interdit d'avoir du retard. Ça ne s'appelle pas encore du retard. Et la Gemara, elle dit que si trois regalim, trois fêtes de pèlerinage, donc trois occasions de monter à Yerushalayim sont passées, et tu n'as toujours pas apporté ton korban, alors, pour le coup, tu transgresses un interdit de retarder, de ne pas amener à son temps. Il y a même une chita de Shimon qui dit que les trois fêtes de pèlerinage, elles doivent être dans l'ordre. Ça veut dire que si quelqu'un fait un vœu le lendemain de Pessah, alors il aura Shavuot, il aura Sukkot, puis après il aura Pessah, Shavuot, Sukkot, parce qu'il a besoin de les avoir les trois dans l'ordre. Et quand comme il a fait son vœu le lendemain de Pessah, il n'avait pas Pessah dans l'ordre. D'accord? Donc là, il en aura, en l'occurrence, il aura cinq fêtes de pèlerinage pour amener son vœu. Donc on voit très bien qu'on sanctionne quelqu'un qui... Ouais, tu t'es engagé, tu n'es pas à la hauteur, tu ne fais pas ce qu'il faut. Alors, je vous ai déjà plusieurs fois fait remarquer que toute cette notion de vœu, de nedarim, est une notion très étrange, si vous voulez. C'est monter la parole humaine à la hauteur de la parole divine. Bon, si quelqu'un fait un vœu et il dit... Il y a une formule, mais il dit qu'il ne mangera pas, hein, il s'interdit de consommer des pommes vertes. Et puis un beau jour, il a très envie d'une pomme verte. Il dit, bah, la pomme verte, c'est moi qui me suis interdit la pomme verte, maintenant je me la permets. La Torah dit, pas question. Si tu as fait un vœu, et si tu manges cette pomme verte, c'est exactement la même chose que si tu manges une côte de porc. Ah oui, c'est moi qui l'ai inventé, c'est interdit. Ça, le nedarim, c'est ça. Le neder, c'est une puissance qui est donnée à la parole humaine absolument incompréhensible. La Torah va lui redemander des comptes comme elle demandera des comptes sur la parole divine. C'est énorme, la parole humaine. Quel poids est là? Bon, alors là, la tshuva... Il dit, ben, si on est malade, alors ça nous aide à faire tshuva. Je suis malade, je vais m'interroger, éventuellement je vais trouver pourquoi je suis malade et je vais faire tshuva. C'est étonnant que les précédents, par exemple, Yitzhak Avinu, il demande des issourim. Pourquoi? Parce que sinon je vais avoir la midat adin à plein régime à un moment de ma mort, parce que j'ai rien payé encore, alors ça va être insupportable. Il dit, ben, envoie-moi des tsarotes un peu pour que j'évacue en quelque sorte, que je paye déjà. Comme ça, j'ai déjà payé une partie et je n'aurai pas un monceau de fautes pour lesquelles il faudra payer après ma mort. Pourquoi il n'envisage pas la tchouba? Pourquoi il n'a pas demandé, lui, Au lieu de demander des issourim, demande des maladies avant la mort. Et...
Mais comment quelqu'un qui représente le dîme peut faire tchouva quelque part, puisque c'est son modèle, ça, le dîme.
Non, mais la tchouva, elle se fait avec l'accord de la Midat Hadin. Si la Midat Hadin n'était pas obligée d'accepter, ça ne marchait pas. La Midat Hadin, elle est là, elle accuse sans cesse. Oui, elle fait une bêtise, je t'accuse. Maintenant, il faudra qu'elle se taise. Quand je fais tchouva, elle est obligée de me laisser faire tchouva. Sinon, on ne pourrait jamais faire tchouva, ça. Si tu dis la Midat Hadin, elle demande toujours son lot, même si j'ai fait tchouva.
Ce que je veux dire, je reprends le modèle de Yitzhak. On dit souvent, c'est l'homme du din.
Oui, c'est l'homme du din. C'est juste, oui.
Donc, si on va un peu plus loin, il représente la justice. La justice. Ah oui, la justice, oui. Effectivement, c'est pas la vérité.
La vérité, c'est Yaakov.
C'est problématique de faire tchouva avec la vérité, parce que si vous êtes dans le vrai, bon, vous êtes dans le vrai, c'est-à-dire qu'ici...
Mais c'est justement avec c'est justement Yaakov qui est l'amida de Emet, Emet le Yaakov, qui va demander la tchouva, qui va demander... La maladie, pour avoir le temps de mettre en règle mes affaires, c'est une forme de tchouva aussi. Hein.
Mais par rapport à la question qu'avait posée tout à l'heure Ilan sur le fait que dans la vieillesse, il y a des maladies qui apparaissent liées apparemment à l'âge, bon, comment on interprète ça?
Alors, non, normalement, il n'y a pas de maladie dans le clan Israël. Pas plus dans la vieillesse que... Il y a la vieillesse, mais pas de maladie de la vieillesse. Et donc les maladies de la vieillesse, elles sont aussi à traiter de la même manière que les autres maladies.
D'accord.
Alors, tant que je sache.
C'est-à-dire que ici, même si les maladies et les soucis de santé se multiplient vers la fin de ta vie, c'est pour mieux te préparer.
Oui, tout est une préparation.
Oui. Bah, c'est une préparation si on arrive à...
disent les juifs, là. Bah, lui, il dit, donc, je vais commencer, Etz Yosef, il dit, Yaakov, tava et acholi. Yaakov, il a demandé la maladie. Shayat sarich likro le kol banav, le ochicham, ou le vancham. Parce qu'il devait appeler tous ses fils, pour leur faire des tochara, pour leur faire des remontrances. Et pour leur donner ces bénédictions, les bénédictions qui sont dans la parasha de Vayechi, à la fin du Sefer Bereshit, qu'il appelait tout le monde, etc. Pour ça, il avait besoin d'être malade. Pour savoir, il faut les appeler. C'est le moment de les appeler. Kolze enorahu liot ela samuch le moto. Or, ces bénédictions et cette tochacha, on ne peut pas le faire autrement que proche de la mort. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, vous vous souvenez, on a déjà expliqué, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des remontrances? Pourquoi Yaakov a attendu d'être à la veille de sa mort pour faire des remontrances à ses fils? Et pourquoi mon cher Rabbeinu a attendu, lui aussi, pour faire des remontrances au Bnei Israël? Lui aussi, il fait des remontrances à Tabracha. Pourquoi ils attendent? Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça. Marqué que Yaakov Avinu, il a eu peur que s'il se mettait à faire les remontrances qu'il a faites, finalement, à la fin de sa vie, mais qu'il a fait ses remontrances à Reuven au milieu de la vie, parce qu'il pouvait... Parce que dès que Reuven a chamboulé le lit de Bila, ou, enfin, il a fait ce qu'il pouvait pour que Yaakov ne puisse pas habiter chez Bilha, chez la servante de Rachel, il aurait pu lui dire, écoute, maintenant, tu as tout perdu. Il a perdu la royauté, il a perdu la grande prêtrise, et il n'aura pas la double part. S'il lui avait dit ça, hein, il y a des chazals, C'est le Midrash qui dit qu'il avait peur que Reuven y parte chez Esav. Il avait peur qu'il y ait une association des lésés par Yaakov, quoi. Les premiers-nés lésés par Yaakov. Il va chez tonton Esav, bon, qui va bien le comprendre, hein. Lui aussi va dire, ah ben moi aussi, il m'a roulé, hein. Et là maintenant, il t'a lésé toi aussi. Donc, parce que, et dans l'absolu, c'est aussi très difficile, c'était trop difficile, jusqu'à trop difficile, pour quelqu'un de croiser ensuite son père, y compris pour son père de le croiser. Après lui avoir dit ces quatre vérités, ou après avoir les avoir entendues, etc., comment il peut le croiser? Donc s'il était amené à le refréquenter, c'était insupportable. Donc il a poussé ça jusqu'au moment où il n'aura plus ensuite à le fréquenter.
Oui, mais c'est difficile pour l'enfant de faire le deuil de s'il n'y a plus. Si le père meurt après avoir lui lâché une bombe, comment il fait l'enfant pour.
L'enfant,
ils sont pour survivre, ouais, à la bombe.
C'est plus un enfant, mais
comment
ben, c'est, ça n'est plus un enfant.
C'est plus un,
oui, mais vous avez dit vous-même qu'on est toujours l'enfant de ses parents.
Ouais, bon, je suis pas responsable de tout ce que je dis, quand même.
Non, parce que j'étais assez d'accord.
Non, non, vous avez raison, mais oui, c'est juste, mais probablement que si on est certain que ce que le père a dit, c'est pour mon bien et que c'est une vérité. Reuven, il ne pouvait pas attendre les félicitations de son père. Il s'est quand même mêlé au nom de. C'est par amour pour sa mère, c'est vrai. D'accord? C'est vrai qu'un fils comme Reuven, qui d'abord, justement, il est le premier de Léa. Donc, quelque part, il a la sensibilité de cet enfant qui a été conçu par son père en pensant qu'il le concevait avec Rachel. Il sait que son père, lui, il a été conçu presque par erreur qu'on entend avec sa mère. Parce que Jacob ne savait pas. Et donc il sait très bien qu'il y a un problème, mais d'un autre côté, il a probablement, lui, une certaine. Pourquoi c'est lui qui amène les Doudaïm? Les autres frères, ils ne pouvaient pas trouver les Doudaïm, c'est les fameuses mandragores et tout. C'est Reuven. Il avait une sensibilité particulière, un amour particulier pour sa mère. Et c'est vrai que ce que Yaakov a fait, c'est insupportable pour Léa. D'accord? Il aimait, il préférait Rachel. Ok. Alors d'accord, il avait son quartier général plutôt du côté de chez Rachel. Rachel meurt. Léa, elle pense, naturellement, et Reuven pense de même, que Yaakov va venir habiter maintenant son quartier général près de Léa. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il met son quartier général chez Bila, la servante de Rachel. C'est sa femme aussi, c'est vrai. Mais c'est une servante. Mais puis c'est pas. Il y a Léa en face. D'accord? Pour Léa, c'est insupportable. Alors, Léa, elle, on n'entend rien de ce qu'a pensé Léa. Mais ce qu'a pensé Léa, c'est sorti chez Reuven. Reuven, il a mis le souk dans la tente de Bila. Certains disent qu'il a couché avec elle pour que Yaakov ne puisse plus avoir de rapport avec elle. Il ne peut pas avoir de rapport avec une femme qui a été avec son fils. Bref.
Et qu'est-ce que ça peut être de mettre le souk dans la couche de son père, si ce n'est pas.
Non, ça, il peut très bien avoir manifesté. Il voulait manifester qu'il n'était pas d'accord, c'était un scandale, c'est que ça faisait souffrir tout le monde. Enfin, sa mère, lui, et peut-être les autres enfants de sa mère, je ne sais pas. Les autres n'ont pas bougé, visiblement. Mais il n'avait quand même pas le droit, il n'a pas à se mêler du couple de son père. Et ça l'a disqualifié parce que son père va dire, il ne lui en veut pas sur le fond de l'affaire, semble-t-il. Il dit, mais c'est révélateur d'une incapacité à se maîtriser. C'est-à-dire, c'est des réactions comme ça trop violentes, un roi qui fait comme ça, il y aura un autre roi qui lui... Bon, il ferait la guerre tout de suite. Donc pour, ça va devenir un... Ou comme Kohen Gadol, il faut une maîtrise de tout, de tous les instants et tout. Il ne peut pas lui laisser tout ça. Alors, dans le fond, disons, si je veux regarder ça du point de vue, je sais pas, de la philosophie politique, ou, etc., c'est vrai que cette intervention de Reuven, qui lui fait perdre le bénéfice de tout ce qu'il a perdu, là, ça fait que, désormais, dans le clan d'Israël, il y a séparation des pouvoirs. Que sans quoi, il n'y aurait pas eu séparation des pouvoirs. Tout allait au même. Donc c'est... Mais d'un autre côté, cette séparation des pouvoirs, elle va entraîner des guerres entre Yosef et Yehuda, elle va entraîner des guerres entre Yehuda et Lévi, parce que les Kohanim vont prendre le pouvoir, les Hashmonaim vont prendre le pouvoir, alors qu'ils n'avaient pas le droit, puisqu'ils sont des Kohanim. Les Kohanim n'ont pas le droit de devenir roi. Normalement, c'est séparé. Alors c'est ce dernier point est différemment accepté. Le Rambam il trouve ça très bien. Il dit que c'était super, on a eu 200 ans d'autonomie juridique, etc., politique, c'est super. Les autres ils s'arrachent les cheveux parce que c'est un issou.
Alors le Rambam est pour les Rachmonim.
Il est pour le fait qu'ils aient pris le pouvoir. C'est vrai. On ne voit pas très bien qui pouvait prendre le pouvoir. Tous les autres sont... Oui, ça va finir. Bon, lui dit, on a quand même eu 200 ans. Et 200 ans de royauté juive. Quoi. C'est ce qu'il dit, c'est comme ça qu'il le présente. Et le problème, c'est effectivement... Dans cette fameuse guerre civile qui s'est passée à Hanouka, enfin qui s'est arrêtée à Hanouka, vous avez tout l'establishment est du mauvais côté. Ils sont tous du côté des pro-grecs. Parce que finalement, la guerre, c'est intéressant, c'est une guerre avec une poignée, vraiment une poignée de gens, comme on dit, mais intime. Tu as donné le rabbim dans les mains de Mahatim, ceux qui sont très, très peu nombreux, c'est une famille, hein, c'est une famille qui se rebelle contre tout le monde, contre l'establishment et tout.
L'establishment formé de Grecs et de
Juifs. De Juifs tous les Juifs assimilés.
Plus les Grecs.
Et c'est pas des Grecs, c'est des Syro-Grecs, c'est-à-dire c'est les Syriens, c'est les Séleucides. Les Séleucides, c'est les... quand Alexandre est mort, il n'avait pas d'enfant, donc ses généraux se sont partagés son empire. Alors il y a les Séleucides qui sont au nord, qui sont du côté de du côté du Liban et de la Syrie, les Ptolémées qui sont en Égypte, et les Juifs qui sont au milieu. Donc, qui sont un jour sous les Ptolémées et un jour sous les Séleucides. On s'entendait mieux avec les Ptolémées qu'avec les Séleucides. On s'entendait mieux avec eux qu'avec les Séleucides. Les Séleucides, c'est eux qui nous ont fait les ennemis.
On dit toujours les Grecs, etc.
On dit les Grecs, c'est la civilisation grecque.
Ouais, c'est ça.
C'est des gens qui sont complètement acquis à la civilisation grecque, et la civilisation dominante de tout le bassin méditerranéen. Alexandre est passé par là, il a laissé des traces. Et donc, par exemple, ces Grecs, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, ils l'ont transformé en temple grec. Les Romains, eux, ils détruisent. Les Perses, ils ont été détruits. Enfin, les Perses, ils ont construit, mais. Les Babyloniens, ils ont détruit. Mais les Grecs, ils ne détruisent pas. Mais ils transforment.
C'était de plus en plus
grand,
je crois qu'ici.
Oui, bien sûr. On était fichus. C'était assimilation complète. Hanouka, c'est assimilation complète. Et c'est une version, si vous voulez, antérieure de ce qui va se passer par la suite au moment de l'Inquisition. Effectivement, tous les rabbins sont convertis, sauf deux. Albo et un autre, oui.
Tous les rabbins sont convertis à
l'Inquisition. Il y en a même un qui est devenu évêque de Burgos.
Non, mais tous les juifs qu'on fuit.
Alors, les rabbins, ils sont restés. Beaucoup de rabbins sont restés. Pas à Babanel, ils sont partis, mais.